Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici Washington, la voix de l'Amérique, Camille Grodidier avec vous, en compagnie d'Anne Robertson. Bonjour Anne.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
Quelques titres pour cette édition du Monde Aujourd'hui. En ce mercredi 2 juillet 2014, les parties au conflit malien vont se retrouver à Alger.
Les autorités maliennes sont d'accord pour le début des négociations avec les groupes armés.
Tous les détails dans un instant avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré. Le ramadan en Guinée est assombri par la cherté de la vie.
Le ministre du Commerce avait demandé il y a quelques jours aux opérateurs économiques d'éviter une augmentation du prix des denrées alimentaires. Mais cet appel ne semble pas avoir été respecté.
Zakaria Camara nous en dira davantage depuis Conakry. Et puis, les ministres de la Santé de 11 pays africains entament aujourd'hui à Accra une réunion de 2 jours sur les moyens de contrôler l'épidémie d'Ebola. Mais tout d'abord, le journal sur la Voix de l'Amérique. Les États-Unis ont placé mardi sur leur liste noire une milice ougandaise islamique, l'Alliance des Forces démocratiques ou ADF. Le département du Trésor est à l'origine de cette décision qui gèle les avoirs du groupe aux États-Unis et empêche les entreprises américaines de traiter avec lui. Elle fait suite à l'annonce lundi par le Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il a placé sur sa propre liste noire l'ADF, accusée de recruter des enfants soldats, de pratiquer des mutilations et des agressions sexuelles et d'attaquer les forces de l'ONU.
Pour rappel, l'ADF, qui se fait également appeler Armée de Libération de l'Ouganda, affirme lutter contre le gouvernement de Kampala, mais opère dans l'est de la République démocratique du Congo.
Le gouvernement malien serait prêt pour le dialogue avec les groupes armés et les deux parties ont prévu de se retrouver le 15 juillet à Alger. Ces négociations se passeront dans le cadre de l'application de l'accord du 18 juin 2013 qui reconnaît l'unité et l'intégrité du territoire malien. D'autres précisions avec notre correspondant Kassim Traoré.
Les autorités maliennes sont d'accord pour le début des négociations avec les groupes armés. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale.
Aujourd'hui, nous entrons dans une phase active par rapport au processus de dialogue. Je pense que nous étions à Alger ces derniers jours. Nous avons pris bonne note de la plateforme et de la déclaration qui ont été adoptées par les 6 groupes armés.
Lors des futures négociations, le Mali tient au respect de ses lignes rouges.
Savoir le respect de l'intégrité territoriale du Mali, de sa souveraineté nationale, du caractère laïque de la République et de l'unicité de l'État. Nous avons indiqué qu'à partir du moment où tout accord se situe dans le cadre de ces lignes rouges, nous pouvons avancer.
Avec l'Algérie et la communauté internationale, Bamako ne voit aucun inconvénient au dialogue intermalien.
Et nous sommes disposés à engager un dialogue direct sous la facilitation algérienne avec nos compatriotes des groupes et mouvements, signataires de ces accords-là pour pouvoir vraiment arriver à un accord de paix durable.
Il faut signaler que la visite du président du Faso au Mali s'inscrit dans le cadre de la bonne organisation de ces futures négociations. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
L'explosion de véhicules piégés a fait au moins 15 morts dans le nord-est du Nigeria. On s'attend à ce que le bilan s'alourdisse. Les explosifs avaient été dissimulés sous une cargaison de charbon de bois. La détonation a ravagé un marché de Maïdougouri. Personne n'a revendiqué la responsabilité de l'attentat, mais la police a immédiatement blâmé la milice islamiste Boko Haram.
La fièvre hémorragique Ebola a fait 467 morts sur 759 cas. Dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest depuis le début de l'épidémie. Tels sont les derniers chiffres annoncés hier par l'Organisation mondiale de la santé, chez Rubin Dorsil.
Ces chiffres montrent une augmentation de 38% du nombre des décès et de 27% des cas depuis le précédent bilan du 24 juin qui faisait état de 599 cas dont 338 décès. L'OMS précise par ailleurs avoir enregistré entre le 25 et le 30 juin 22 nouveaux cas dont 14 décès. Au total, l'Organisation mondiale de la santé a comptabilisé 759 cas de fièvre hémorragique, 544 confirmés d'Ebola, dont 467 se sont soldés par un décès. La Guinée, d'où l'épidémie est partie, est le pays le plus affecté, avec 413 cas, dont 303 morts. Le Libéria a dénombré 107 cas, dont 65 mortels, et la Sierra Leone, 239 cas. Selon l'OMS, contenir cette épidémie requiert une réponse forte et des mesures drastiques. Accra, la capitale du Ghana, accueille aujourd'hui et demain une réunion d'urgence des ministres de la Santé de 11 pays africains afin de préparer un plan de riposte.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies et le secrétaire général Ban Ki-moon ont condamné une attaque au Mali qui a entraîné la mort d'un casque bleu burkinabé de la mission des Nations Unies dans ce pays et fait 6 blessés. Ils ont présenté leurs condoléances à la famille de la victime ainsi qu'au gouvernement et au peuple du Burkina Faso.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Cour européenne des droits de l'homme a validé mardi la loi française de 2010 qui interdit de dissimuler son visage dans l'espace public, notamment à l'aide d'un voile islamique intégral, signalent les médias. Elle a estimé que cette loi n'outrepasse pas la marge d'interprétation accordée aux États dans la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l'homme.
La CEDH a ainsi débouté une Française musulmane qui avait porté plainte dénonçant cette loi comme une atteinte à sa liberté de religion et à sa vie privée. L'arrêt de la Cour est définitif.
Kiev a repris hier son opération militaire contre les rebelles dans l'Est, ce qui a entraîné une vive réaction du président russe Vladimir Poutine. Félix Yepassi Zembro.
Le président ukrainien Petro Porochenko a affirmé hier que ses forces ont reconquis un poste frontière occupé par les insurgés pro-russes dans la région de Lugansk. Refusant de prolonger le cessez-le-feu, en dépit d'intenses pressions russes et européennes, il avait annoncé l'offensive. Cependant, un porte-parole des séparatistes à Lugansk a démenti que le poste de Dobzhansky soit tombé aux mains des forces de Kiev, tout en reconnaissant, selon l'agence russe RIA Novosti, que d'âpres combats se déroulaient dans les environs. Pour Vladimir Poutine, le président russe, c'est Petro Porochenko qui est responsable de la situation actuelle. Mais Kiev accuse de son côté Moscou d'attiser l'agitation séparatiste du même genre qui lui avait permis d'annexer la Crimée en mars dernier. La non-reconduction du cessez-le-feu par le président ukrainien a signé l'échec de derniers efforts visant à mettre fin au combat, alors que les chefs de diplomatie d'Allemagne, de France, de Russie et d'Ukraine se réuniront aujourd'hui à Berlin pour de nouvelles discussions sur la crise en Ukraine.
Des dizaines de milliers de personnes ont participé aux funérailles des 3 adolescents israéliens retrouvés morts en Cisjordanie, près de 3 semaines après leur disparition. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président Shimon Peres ont pris la parole et ont promis de faire payer le Hamas.
Mardi matin, l'armée israélienne a attaqué à l'explosif les domiciles à Hébron de 2 hommes soupçonnés d'avoir enlevé les jeunes gens. Le gouvernement israélien les accuse d'appartenir au Hamas, mais le groupe dément toute implication dans le rapt et le meurtre des 3 jeunes Israéliens.
Et puis le Foreign Account Tax Compliance Act, la loi américaine contre l'évasion fiscale, est entrée en vigueur hier aux États-Unis. Le Trésor américain l'a annoncé hier. Elle fait obligation à des milliers de banques du monde de livrer des informations sur leurs clients américains. Morgane Guiriec.
Selon l'AFP, plus de 80 000 établissements financiers, une centaine de pays dont la Suisse, le Luxembourg ou les îles Caïmans se sont engagés à se conformer à cette loi qualifiée par le Trésor américain d'étape majeure dans la lutte contre l'évasion fiscale. Au terme de cette réglementation votée en 2010, les banques étrangères devront systématiquement informer le fisc des États-Unis des comptes et dépôts de leurs clients américains au-delà d'un montant de 50 000 $. Cette loi est le tremblement de terre qui fait s'effondrer le barrage du secret bancaire, a affirmé à l'AFP Pascal Saint-Amand, chef de l'unité de lutte contre les paradis fiscaux à l'OCDE. Toutefois, la FATCA reste contestée par le secteur bancaire qui dénonce sa complexité et redoute une flambée des frais liés à son application. Selon des détracteurs, elle va compliquer la vie des expatriés américains qui auront plus de difficultés à ouvrir des comptes bancaires à l'étranger.
Le secrétaire d'État américain John Kerry appelle les dirigeants d'Amérique centrale à s'attaquer aux causes de la crise qui a entraîné l'immigration illicite aux États-Unis, 2 milliers d'enfants non accompagnés. Il a conféré mardi à Panama City avec les présidents du Salvador et du Guatemala et le ministre des Affaires étrangères du Honduras. Les enfants expédiés aux États-Unis sont exploités et mis en danger, a-t-il fait valoir.
Quant au président du Salvador, Sanchez Cerén, il a dit que les pays d'Amérique centrale ont pris des mesures depuis qu'ils ont été informés de la situation.
Merci Anne Albertson. On vous retrouvera en fin d'émission au micro Camille Grosdidier pour Le Monde aujourd'hui sur les ondes de la Voix de l'Amérique. En Guinée, les musulmans observent le Ramadan dans un contexte de précarité et d'augmentation des prix des denrées alimentaires. Il faut dépenser plus d'argent que d'habitude, mais voilà, les bourses ne permettent pas de s'offrir des plats copieux, signale notre correspondant Zakaria Camara.
Marché de Lambani, dans la banlieue de Conakry, pas de grande affluence et pour cause. Les prix des denrées alimentaires ont connu une augmentation. Troisième jour de Ramadan et les femmes doivent affronter la nouvelle situation du marché.
Il y a une augmentation. Par exemple, l'oignon a augmenté à 1500. Ici, c'est les tomates, une augmentation de 500. C'est des augmentations qui varient de 1000 francs, 2000, 3000. Mais ça pèse vraiment sur le panier de la ménagère.
Je pense que c'est plutôt difficile pour les citoyens. Du fait que le marché est déjà cher et que les gens ne sont pas payés, le mois de Ramadan est là, c'est difficile.
Si certaines femmes font plusieurs tours des étals et boutiques sans remplir le panier, les hommes, eux, ne semblent pas avoir la bourse nécessaire pour faire face à un mois qui demande plus d'argent.
On accueille le mois de carême dans des difficultés financières. Alors, si tu avais l'habitude de donner 25 000, tu es obligé de donner 75 000 au mois de carême. Imaginez, qu'est-ce que ça va donner dans 5 jours du mois de carême. Donc, on est tous endettés comme ça.
Chez nous, des pères de famille, le moment s'annonce difficilement. Franchement, difficilement. Le panier de la ménagère, ça ne va pas. Nous vivons dans le calvaire total.
Le fonctionnaire guinéen gagne moins de 300 dollars par mois et chaque année, à l'occasion du Ramadan, il doit dépenser plus à cause des augmentations des prix sur le marché. Et selon le docteur Fassiné Conté, enseignant-chercheur en économie, la flambée des prix des denrées est une situation voulue par les commerçants.
On est dans le mois saint, les gens ont plus tendance à consommer et ce qui augmente la demande. Et vu que l'offre ne suit pas, forcément il y a une augmentation des prix. Mais il faut aussi reconnaître que cette augmentation pourrait être due aussi à un comportement des commerçants pour créer la pénurie, pour leur permettre de faire beaucoup plus de profits.
Comment expliquez-vous le cas guinéen?
Bon, en fait, en ce qui concerne le cas guinéen, il faut reconnaître que l'État est resté pendant longtemps absent et c'est ce qui fait que les gens profitent.
Le ministre du Commerce avait demandé il y a quelques jours aux opérateurs économiques d'éviter une augmentation du prix des denrées alimentaires. Mais cet appel ne semble pas avoir été respecté. Il reste 3 semaines et quelques jours avant la fin du Ramadan. La situation est précaire pour de nombreuses familles en Guinée. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en Guinée, à Conakry, sur Sabari FM, Soleil FM, Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Radio Milo FM à Cancan et Sigiri, Radio Liberté FM à Nzérékoré, et Radio Bolivar FM à Mamou.
Tuli Nabo Mushingi, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso, vient d'achever une tournée dans le pays appelée The American Roadshow. C'était pour constater les réalisations américaines dans le pays, mais également entrer en contact avec les populations. Cela a fait l'objet d'un point de presse mardi dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou, signale notre correspondant Zoumana Wonogo.
Bonjour, bienvenue. Good morning. Thank you very much for coming. Ni biego yam kimbare. Anin sogoma. Jam wali. Jam na. Jam nali.
Ainsi parla Tuli Nabo Mushingi, ambassadeur des États-Unis au Burkina, preuve de son intégration linguistique après sa tournée intitulée American Roadshow. On l'écoute sur le sens et les objectifs de cette tournée.
Connaître le Burkina profond, rencontrer les autorités régionales et locales, les populations de différentes couches sociales. Car, vous savez, il y a une grande différence entre ce qui est dit dans les livres et documents divers et la réalité du terrain. Il est également important de montrer que le gouvernement américain est présent dans toutes les 13 régions. Des organismes tels que le Millennium Challenge Corporation, USAID, le Corps de la Paix, le Département de la Défense et le Département d'État ont investi des millions de dollars dans une myriade de projets dans toutes les régions du Burkina Faso. Dans chaque cas, notre présence répond à trois objectifs majeurs. 1. Stimuler une croissance économique équitable et un développement durable. 2. Améliorer la paix et la sécurité au Burkina Faso et dans la région. Et 3. Renforcer les institutions démocratiques tout en améliorant la gouvernance et en protégeant les droits de l'homme.
Ayant vu les réalisations américaines et les réalités des Burkinabés des villes et des campagnes, l'ambassadeur américain ne pouvait pas échapper à une question sur son appréciation de la situation politique actuelle au Faso.
Depuis le début de cette année-là, comme vous le savez, la température a un peu augmenté. Nous avons rencontré beaucoup de partis politiques, des partis au pouvoir, les partis d'opposition. Nous partageons le même message avec tous les partis politiques. Notre avis est que un pays se retrouve renforcé et que les gens montrent du respect pour leur nation et leur gouvernement lorsque le processus constitutionnel est bien exécuté et défendu par ce gouvernement. Pour être réussi, la construction d'une démocratie forte exige des institutions fortes. Et ça, c'est le même message qu'on fait partout. Quand on parle à la population, quand on parle aux partis politiques.
Dans quelques jours, le compact du Burkina à travers le MCC, qui a eu un impact positif sur le développement socio-économique du Burkina, va prendre fin. Aura-t-on un autre compact? Suivons la réponse de Kateri Clément, responsable du MCC.
Est-ce que vous savez que d'avoir un deuxième compact, c'est encore plus difficile d'avoir le premier? Il y en a trois critères. D'être un bon élève comme le Burkina a été, ça touche deux de ces critères. Mais le troisième, c'est les indices qu'on publie chaque novembre par rapport à la bonne gouvernance, l'investissement dans les peuples, l'économie libre, etc., etc. Donc, c'est le conseil d'administration de la MCC qui va prendre les décisions dans leur réunion de décembre. Le conseil d'administration, c'est présidé par Secretary Kerry. Je ne peux pas dire autrement qu'on attend en décembre. On va voir qu'est-ce qui se passe ici au Burkina entre-temps. En Kwazeda.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Camille Grodilly avec vous pour Le Monde aujourd'hui. Il est 5h47 temps universel. Le président Barack Obama affirme que l'afflux de jeunes migrants non accompagnés à la frontière sud-ouest des États-Unis est une crise humanitaire créée en grande partie par le système d'immigration. Le président accuse les législateurs républicains de bloquer ses efforts pour réformer la loi sur l'immigration. Timothée Donangmaï.
Des centaines d'enfants non accompagnés originaires d'Amérique centrale continuent d'arriver à la frontière dans l'espoir d'entrer aux États-Unis. Le système d'immigration est débordé car il doit déterminer si ceux qui y parviennent ont des raisons valables de demeurer légalement dans le pays avant d'être expulsés. Le président Obama situe l'origine de ce phénomène.
Le problème est que notre système est tellement cassé, pas clair que les gens ne savent plus quelles sont les règles.
Le chef de l'exécutif a expliqué lundi que les passeurs, trafiquants et autres criminels utilisent cette confusion pour se livrer au trafic transfrontalier de personnes et de marchandises. Selon M. Obama, les immigrants illégaux et les entreprises qui les utilisent nuisent à l'économie nationale et à l'emploi. Il accuse les républicains de la Chambre des représentants de bloquer un vote sur un projet de loi de réforme de l'immigration, ce qui, dit-il, l'oblige à prendre ses responsabilités.
Comme premier pas, je demande au ministre de la Sécurité intérieure et à son homologue de la Justice de déplacer les ressources disponibles et appropriées de l'intérieur vers la frontière. Protéger la sécurité publique et expulser les criminels dangereux a été et restera la priorité.
Plus de 52 000 enfants venant du Guatemala, du Honduras et du Salvador sont arrivés dans le sud du Texas depuis octobre. Ils remplissent les centres de détention de la frontière. Certains Américains accusent l'administration Obama d'être responsable de cet afflux massif de mineurs. Greg Abbott, ministre de la Justice de l'État du Texas.
C'est en partie une humanitarian crisis.
C'est en partie une crise humanitaire parce que les politiques présidentielles encouragent ces enfants à risquer leur vie pour voyager depuis l'Amérique centrale à l'État du Texas.
L'administration met de son côté cette situation sur le compte d'une loi votée sous l'administration Bush qui stipule que les illégaux mineurs ne peuvent pas être immédiatement renvoyés dans leur foyer, une loi que veut changer le président Obama qui demande d'urgence au Congrès plus de 2 milliards de dollars pour faire face à la crise.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, les débats qui agitent les États-Unis à l'heure du jour de l'indépendance, le 4 juillet. Port d'armes, avortement, mariage homosexuel ou encore surveillance de la NSA, que peut apprendre à l'Afrique ? Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum ou à fr@voanews.com. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Le monde aujourd'hui, on enchaîne avec les sports et on retrouve pour cela le journal de la Coupe du Monde. Présenté aujourd'hui depuis Salvador de Bahia par Nicolas Pino, envoyé spécial de la VOA au Brésil.
Bonjour à tous, nouveau numéro de ce journal de la Coupe du Monde au Brésil. Les États-Unis disent adieu à cette Coupe du Monde 2014, tout comme la Suisse. Il ne reste désormais plus que 8 équipes à pouvoir prétendre à la couronne mondiale. L'Argentine en fait partie, même si ce fut dur pour les coéquipiers de Lionel Messi, poussé jusqu'en prolongation par la Suisse. Les Helvétiques ont été crucifiés par Di Maria 2 minutes avant les tirs au but. Victoire 2-1. Les Bleus et Blancs poursuivent donc leur rêve. L'Argentine affrontera en quart de finale la Belgique. Les Diables Rouges ont aussi dû passer par les prolongations pour venir à bout de l'équipe américaine. Victoire 2-1. Les États-Unis ont montré un visage combatif, mais ça n'a pas suffi devant le talent belge. Écoutons l'avis de Djibril Dramé, l'ancien entraîneur du Stade malien à Bamako. Il estime que c'est la deuxième mi-temps qui a départagé les deux équipes.
Ce n'est qu'à la prolongation où les deux équipes ont pu quand même se départager. Pourquoi ? Parce qu'on peut dire même que ça a été un coaching payant du l'entraîneur de Diable Rouge en faisant monter Lukaku, qui a une forme de pénétration extraordinaire, une forte accélération sur le plan droit qui s'est terminée par un but. Et encore, il a tenté 2 fois de suite sur le plan gauche où le gardien a fait de belles arrêts à ce niveau. Ce n'est qu'à la troisième fois il a pu marquer le deuxième but. Donc on croyait que le match était fini et que moralement les Américains étaient presque atteints. Mais contre toute attente, on a vu encore une équipe américaine qui a réagi vigoureusement. À la deuxième partie de la deuxième mi-temps, pratiquement de 15 dernières minutes, on a vu une équipe américaine qui a multiplié les assauts, qui a eu d'ailleurs plus d'occasions que pendant les 90 minutes dernières. Et si ce match était terminé sur une victoire américaine, personne n'aurait crié au scandale. Mais encore une fois, le plus de football étant ce qu'il est, je pense que les Belges ont gagné, mais ils ont gagné dans la douleur.
Djibril Dramé, ancien entraîneur du Stade malien, joint à Bamako.
La Copa du Monde est notre. Nous allons organiser pour que tout le monde puisse entendre. Agora eu vou explicar.
Place à présent au quart de finale qui débute vendredi par un alléchant Brésil-Colombie, mais aussi France-Allemagne. Les deux équipes se sont affrontées souvent lors des phases finales de Coupe du Monde. Écoutons tout de suite le coup de sifflet de Jules Valentin Gouy.
We celebrate the best African football. No, voilà,
bonjour. Le casting des quarts de finale nous propose un alléchant Allemagne-France, ce derby européen si riche d'histoire. Qui ne se souvient de la demi-finale épique de 1982 en Espagne, avec la blessure de Batiston et la remontée énergique de Rummenigge en fin de partie, ou encore celle de 1986 au Mexique, quand le pied gauche de Bremer mit fin aux espoirs de la génération dorée de Michel Platini. À l'époque, la France était à l'école nantaise du football champagne, offrait un bon spectacle là où l'Allemagne, comme l'a dit Gary Lineker, finissait toujours par gagner. Puis tout a changé à la fin des années 90. Les Bleus, avec l'arrivée massive de joueurs d'origine africaine, issus des écoles de formation, sont devenus un modèle de solidité, de puissance et de créativité, accumulant les trophées, mais sans rencontrer l'Allemagne. Le France-Allemagne de vendredi permettra de combler cette lacune, même si les héritiers de Zidane, Vieira, Henri ou Thuram s'appellent aujourd'hui Matuidi, Pogba, Sako, Sissoko et Benzema. Ce qui continue à expliquer, d'ailleurs, l'intérêt pour les Africains d'être avec l'équipe de France. Face à la redoutable Mannschaft actuelle, La nouvelle génération des Bleus aura à cœur de venger les enfants d'Hidalgo pour le grand plaisir de nombreux Africains qui ont déjà pardonné l'affront contre le Nigeria. À demain.
No flow, desse jeito. Salve Brasil.
Pode crer.
MC Guimê, tamo junto.
MC,
eu sou.
Vai segurando, moleque.
E aí, Neymar?
O técnico Sambo, é nóis. E ó como que eu vou, hein?
En bref, le sélectionneur du Nigeria, Stephen Keshi, a confirmé hier qu'il quittait son poste à l'issue de ce mondial, après le 8e de finale perdu face à la France, 2-0. Mes amis, ça a été une bonne période et j'ai apprécié chaque instant. Ça a été un honneur d'entraîner les Super Eagles, mais il est temps de se retirer, a écrit Stephen Keshi sur son compte Twitter. Je vous rappelle que le sélectionneur de 52 ans est pressenti pour prendre les rênes de la sélection sud-africaine. Keshi était aussi le capitaine du Nigeria au Mondial 94. Il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations 2013 en tant que sélectionneur. Il est le tout premier entraîneur à avoir joué le 8e de finale du Mondial en tant que joueur et sélectionneur. Enfin, cette dernière information, la FECA Foot. La Fédération Camerounaise de Football a demandé à son comité d'éthique d'enquêter sur les accusations de fraude lors des 3 matchs du premier tour des Lions Indomptables. C'est un journal allemand qui a évoqué un arrangement sur le résultat Croatie-Cameroun, défaite 4-0 pour des paris truqués pour notre confrère camerounais Jean-Bruno Tagne. Il ne s'agit pour l'instant que de rumeurs.
Jusqu'à présent, ce sont des rumeurs, il n'y a rien de véritablement fondé, même si c'est une accusation qui ternit considérablement l'image de l'équipe nationale de football du Cameroun, qui n'était pas déjà reluisante, l'image du Cameroun lui-même, et donc je pense qu'il est effectivement de l'intérêt non seulement de la Fédération Camerounaise de football, mais également du gouvernement camerounais, de mettre tous les moyens qu'il faut pour tirer cette histoire au clair, parce que si effectivement des Camerounais ont accepté de se faire corrompre pour faire perdre leur pays, ça c'est quelque chose de très grave, c'est que jamais vu dans ce pays et effectivement, tout le monde devrait pouvoir voir clair dans cette affaire.
Alors, est-ce que les Camerounais ont été choqués par ces accusations?
Oui. Tout le monde est choqué au Cameroun par cette information de ce journal allemand jusqu'à présent. Ça tombe très mal parce qu'on n'a pas fini de digérer la déculottée historique que le Cameroun a subie à la Coupe du Monde au Brésil. 3 matchs, 3 défaites, 9 buts d'encaissés, un seul but. Jamais on n'avait atteint ce niveau d'humiliation de toute l'équipe nationale du Cameroun. C'est la pire participation du Cameroun à une compétition internationale. Et donc, pendant qu'on essaie encore de digérer cette défaite, il y a cette rumeur répandue par ce journal allemand faisant état de ce que le Cameroun, les joueurs camerounais, c'est quand même beaucoup, se serait fait corrompre pour faire perdre le Cameroun 4-0 contre la Croatie.
Jean-Bruno Tagne, notre confrère camerounais. De son côté, la FIFA n'a pas souhaité commenter cette affaire. Voilà, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde préparé par Bagassi Koura et Nicolas Pinault. Camille et tous les fidèles de la Voix de l'Amérique, je vous donne rendez-vous sur le site spécial voabrésil2014.com. À ce soir pour un nouveau point sur la Coupe du Monde. Je vous retrouve ici à Salvador de Bahia.
Et on enchaîne avec la page musicale en compagnie de Roger Muntou. Bonjour Roger.
Bonjour Camille. Bobby Womack, légende de la soul américaine, n'est plus. Il est mort vendredi à l'âge de 70 ans. L'annonce a été faite par le magazine Rolling Stone. Le monde se souviendra de lui dans Looking for Love. I'm looking.
Les causes de sa mort n'étaient pas connues dans les médias.
Pas du tout, Camille, mais on sait toutefois qu'on lui avait diagnostiqué la maladie d'Alzheimer il y a de cela 2 ans. Le chanteur avait également de nombreux problèmes de santé, dont un cancer de la prostate.
Bobby Womack, Looking for Love. Merci, Roger.
De rien, Camille. Nos salutations à notre fidèle auditeur Jean-Claude Nzouana à Kigali.
Vous retrouverez Roger Muntou dans le RM Show à 20h, temps universel.